Sasquatch.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Aujourd'hui, sur les ondes de la radio, nous accueillons Julien Rougerie, membre de la Fondation Émergence. Après avoir animé un atelier rencontre le 28 novembre dernier, organisé par Vitalité 55+, et en collaboration avec l'Assemblée communautaire française, En toute fierté SK, le réseau santé en français de la Saskatchewan et la Fondation Émergence, Julien vient nous parler des thérapies de conversion. Bonjour Julien, vous avez animé le 28 novembre dernier l'atelier rencontre qui s'intitule « Pour en finir avec les thérapies de conversion ». Alors pour ceux ou celles qui n'en auraient encore jamais entendu parler, expliquez-nous ce que sont les thérapies de conversion.
Alors les thérapies de conversion, en fait, c'est l'ensemble des pratiques ou des traitements ou des services qui visent à changer, réprimer ou même réduire le fait qu'une personne est LGBTQ+. Hein, lorsqu'on veut, par exemple, changer son orientation sexuelle, son identité de genre ou son expression de genre. Et puis la définition que je vous propose là aujourd'hui, c'est celle qui est inspirée du Code criminel canadien, puisqu'il y a une loi qui a été adoptée là-dessus le 7 janvier 2022.
Et ces thérapies, où et quand est-ce qu'elles ont vu le jour ?
Ces thérapies, elles ont vu le jour. Vous savez, l'oppression des minorités sexuelles de genre, hein, ça remonte à plusieurs siècles. Hein, donc, on pourrait remonter au Moyen Âge, peut-être au-delà. Mais en tout cas, dans le milieu strictement médical, c'est important de garder en tête qu'au Canada, on considérait que les personnes LGBTQ+ étaient des personnes malades mentales qu'il fallait traiter, puisque dans le DSM, donc qui fait office au Canada et en Amérique du Nord, on considérait que les personnes homosexuelles ou bisexuelles étaient des personnes qui souffraient de troubles psychiatriques jusqu'en 1973. Et pour ce qui est des personnes trans, c'est en 2013 seulement qu'au Canada, on a arrêté de les considérer comme des personnes qui souffrent de troubles mentaux et des personnes qui doivent être soignées. Donc c'est extrêmement récent qu'on a dépathologisé la diversité sexuelle et de genre. Donc c'est entre autres de là d'où ça vient les thérapies de conversion.
Donc on peut dire que les mentalités, elles ont vraiment évolué très lentement quand même.
Oui, pour tout ce qui est diversité sexuelle et de genre, il y a encore jusqu'en 1969 au Canada, c'était même criminel d'exister en tant que personne LGBTQ+, c'était la prison qui était requise. Donc oui, tout s'est passé, la société a beaucoup évolué, mais tout s'est passé très très récemment, donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant. C'est des acquis qui restent fragiles et il n'y a toujours pas une pleine égalité envers les minorités sexuelles et de genre. La loi, c'est facile à changer, mais les mœurs, la culture, la réalité du vécu, ça, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. On pourrait faire le parallèle avec le sexisme et le racisme, c'est illégal depuis bien longtemps et on n'en est pourtant pas encore complètement libéré dans notre société.
C'est ça, c'est des choses qui restent très fragiles et qui, malheureusement, à tout moment, ça peut rebasculer dans le sens inverse, quoi.
C'est ça, et puis on voit un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, notamment, ou même dans certaines provinces au Canada qui commencent à passer des législations qui sont hostiles aux diversités sexuelles et de genre. Donc même ici au Canada, on commence à voir un petit peu certains phénomènes de recul et de mise en danger de ces droits.
Et donc, comme vous nous avez dit, ces thérapies, maintenant, elles sont heureusement interdites. Mais est-ce que, malgré ça, on en trouve quand même ?
Oui, alors ça existe toujours. En fait, la définition de la loi, là, j'ai envie de la répéter parce qu'elle est vraiment intéressante. En fait, la législation au Canada, elle est allée vers une définition très inclusive de qu'est-ce qu'on considère être une thérapie de conversion, puisqu'on considère que c'est l'ensemble des traitements, des pratiques et des services. Donc, on pourrait débattre, c'est quoi un traitement, c'est quoi une pratique, c'est quoi un service. Donc toutes ces choses-là qui visent à changer, réprimer ou réduire l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou l'expression de genre. Donc bien sûr, c'est clairement une thérapie de conversion. Par exemple, si un psychothérapeute continue de considérer que ce n'est pas correct d'être une personne LGBTQ+, et qu'il va essayer d'encourager la personne vers le reni de cette réalité-là. Donc là, ça serait clairement une thérapie de conversion. Thérapie parce qu'il y a une dimension médicale qui est là. Mais on pourrait même se poser la question, par exemple, des communautés ou des milieux où il y aurait des pratiques, par exemple, punitives, etc., pour que la personne change son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre, c'est aussi inclus dans la loi.
Mais du coup, pour contrer à ça, il y a des mouvements qui se sont mis en place. Est-ce que vous connaissez peut-être, pas la date forcément exacte, mais à peu près à quand remontent les premiers mouvements qui ont été mis en place pour chercher à faire évoluer ça et à interdire justement ces thérapies ?
Bon, l'évolution des droits, en fait, l'interdiction des thérapies de conversion, elle s'inscrit dans l'évolution des droits des minorités sexuelles et de genre. Hein. Tout à l'heure, je parlais de 1969, c'est un petit peu... On pourrait dire que c'est un petit peu l'an zéro du début des luttes pour les droits des minorités sexuelles et de genre. C'est aussi la date des émeutes de Stonewall à New York, qui est une date symbolique dans les pays occidentaux, du moins. Donc tout a commencé par la décriminalisation, dépathologisation ensuite. Hein, je parlais du DSM en introduction, mais il y a des lois notamment pour tout ce qui ne fait que reconnaissance des couples de même sexe. Ça fait même pas 20 ans au Canada qu'il y a une pleine reconnaissance des couples de même sexe. Donc ça, la question des thérapies de conversion, elles s'ancrent du point de vue médical dont on a parlé, mais elles viennent aussi s'immiscer de différentes façons, parce que tant que dans la société il y a du rejet ou un malaise vis-à-vis de la diversité sexuelle et de genre, ça va forcément encourager des phénomènes de pratiques de conversion, de thérapie de conversion. Donc tout est interrelié, là, il n'y a pas de... Je n'ai pas une réponse concise à faire sur cette question.
C'est au final, ça reste assez récent, en fait, tout ça. Le fait aussi que les personnes aient eu la possibilité de se montrer, de faire entendre leur voix.
Oui, là vous parlez des personnes qui ont subi des thérapies de conversion ou...
Oui.
Oui, ah, bien sûr. Et puis, en plus, la problématique de cette loi-là, hein, comme toute nouvelle... addition au code criminel canadien, ce n'est en vigueur qu'à partir du moment où il y a eu la sanction royale. Donc pour cette loi, c'est le 7 janvier 2022. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, ce n'est pas passible de poursuite criminelle. Par contre, en fonction de où on se trouve au Canada, il y a des législations provinciales où il peut y avoir des recours aux civils. On a fait une formation hier avec Vitalité 55+, et l'association des francophones du Manitoba. Donc dans ces deux provinces-là, il n'y avait pas forcément de loi provinciale, mais il y avait parfois des lois municipales qui prévoient certains recours, certaines amendes en cas de pratique de conversion. Donc il y a plusieurs recours qui sont possibles, mais en tout cas du point de vue fédéral, au point de vue du code criminel, ça c'est valable partout au Canada, mais c'est que pour les faits qui ont eu lieu à partir du 7 janvier 2022. Pour ce qui s'est passé avant, il faut voir les recours du côté civil et aussi la possibilité de porter plainte auprès des ordres professionnels. Si c'est un professionnel, par exemple un psychologue, qui vous a entraîné vers une thérapie de conversion, on peut porter plainte auprès de l'ordre également.
D'accord, mais ça, c'est possible uniquement si ça a été fait après le 7 janvier 2022, donc.
Non, la seule chose qui est possible à partir du 7 janvier 2022, c'est les recours, le recours pénal. C'est-à-dire là, si on veut porter plainte à la police.
D'accord.
Et que la personne qui a fait une thérapie de conversion ou qui l'a fait suivre ou qui en a fait la promotion, ça c'est écrit dans la loi, ça, on peut porter plainte à la police et la personne peut être poursuivie et elle s'expose à une amende, voire à une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 années de réclusion.
Mais avant ça, en fait, même la police, elle ne pouvait pas agir, quoi.
Alors, la police ne pouvait pas agir parce que ce n'était pas dans le code criminel. Ce n'était pas une infraction au code criminel. Par contre, avant ça, ils pouvaient éventuellement avoir des recours en droit civil. Donc là, c'est plutôt ça dépend des provinces. Les recours en droit civil, c'est lorsqu'on demande réparation pour quelque chose qui nous est arrivé.
Et est-ce que les personnes obtenaient réellement des résultats ?
Alors non, il y avait assez peu. En fait, il y a assez peu de personnes qui ont porté plainte, parce que déjà pour porter plainte, ou demander réparation, il faut un élément de preuve. Faut avoir été conscient qu'on a été victime d'une thérapie de conversion. Et là, il y a beaucoup de personnes victimes de thérapie de conversion qui sont elles-mêmes allées chercher ce genre de service. Tant qu'il y a du rejet, de la diversité sexuelle et de genre, parfois les personnes LGBTQ+ elles-mêmes elles ne souhaitent pas accepter ça et puis elles ont envie, elles sont séduites par l'idée que quelqu'un leur propose une solution pour changer de cette question LGBTQ+. Donc il y a aussi, dans certains cas, soit c'est la famille qui a fait pression, soit c'est la personne elle-même qui a souhaité avoir ce genre de traitement. Et puis ce qui est intéressant dans la nouvelle loi fédérale, c'est que ça précise que c'est un acte criminel que la personne ait été consentante ou non et qu'elle ait demandé le service ou non. Donc on peut faire le parallèle, par exemple, avec la torture. La torture, c'est illégal dans le code criminel canadien. Dans la défense de la personne, on ne pourra pas plaider le fait que la personne était consentante, puisque lorsque c'est illégal, on ne peut pas consentir, même pour soi-même, à quelque chose qui est dans le code criminel canadien.
Alors, vous nous avez parlé un peu de la famille, et justement, quel est le rôle de la famille dans ces thérapies? Est-ce que, dans la plupart des cas, il y a une pression familiale qui joue?
Oui, alors, dans une majorité des cas, en fait, il y a un rôle de la famille. Hein, une étude de la chaire de diversité sexuelle et pluralité des genres de l'UQAM à Montréal a fait des études sur la question des thérapies de conversion. Et entre 68 et 80% des cas, c'était des parents, des membres de leur famille ou leurs représentants qui ont fait suivre des thérapies de conversion à d'autres membres de la famille, souvent les enfants de la famille, mais aussi il y a les amis ou les connaissances, il y a les autorités religieuses. Et il y a aussi dans 8% des cas, selon cette étude, c'est directement des professionnels de la santé qui ont offert ce genre de thérapie.
Et ces thérapies, est-ce que vous savez si elles étaient enseignées dans les universités pour les futurs psychologues, psychiatres?
Alors, les thérapies en question, ce qui fait foi en matière de santé mentale au Canada, c'est le DSM, donc c'est une norme nord-américaine sur qu'est-ce qu'on considère un trouble de santé mentale ou pas. Donc depuis 1973, on a retiré l'homosexualité. Donc en théorie, les praticiens, les professionnels de la santé n'avaient aucune raison d'aller vers un type de traitement puisque ce n'était plus une maladie. Et pour les personnes trans, c'est en 2013. Donc avant ces dates-là, il y a eu des tas de traitements qui ont été proposés, hein, que ce soit des traitements de psychothérapie. Moi, je connais des personnes qu'on a déclarées être guéries de leur transidentité ou de leur homosexualité lorsqu'elles ont consulté, par exemple, dans les années 70 auprès de psychologues. Puis avant ça, il y a eu les thérapies par aversion, il y a eu les lobotomies, les thérapies par choc électrique, les castrations chimiques. Tout ça, c'est des traitements qui ont été tentés pour guérir les personnes LGBTQ+. Et bien sûr, personne n'a jamais été guéri. Et c'est des traitements qui entraînent des conséquences psychologiques et physiques, parfois très très sérieuses sur les personnes qui ont dû subir ça.
Et est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces traumatismes qui ont été créés chez les victimes?
Oui, en fait, quand on a subi une forme de thérapie de conversion, ça entraîne énormément de conséquences néfastes sur les personnes. C'est pour ça que c'est interdit, même si la personne était consentante, puisque les thérapies de conversion, ça peut augmenter des symptômes de dépression, une perte de l'estime de soi, ça augmente l'isolement social des personnes, ça peut provoquer des difficultés affectives ou des difficultés sexuelles, ça encourage les personnes à ne pas s'accepter en tant que personne LGBTQ+, donc ça leur fait perdre du temps dans leur processus d'acceptation. Ça peut mener au suicide. Dans le pire des cas, ça fait en sorte que les personnes n'osent plus aller vers le milieu de la santé parce qu'elles ont vécu ce genre de pratique-là dans le milieu de la santé, et même entraîner le syndrome de stress post-traumatique. Donc tout ça, c'est des conséquences qu'on connaît aux personnes qui ont vécu des thérapies de conversion.
Et du coup, ces victimes, aujourd'hui, vers qui elles peuvent se tourner pour guérir des thérapies?
Alors, elles peuvent se tourner, déjà sur un plan plus personnel, elles peuvent se tourner vers des organisations LGBTQ+, hein, qui peuvent les faire un petit peu cheminer vers l'acceptation de qui elles sont en tant que personne LGBTQ+. Au besoin, elles peuvent se tourner vers des prestataires de soins, notamment je pense à tout ce qui est santé mentale, hein, mais il faut faire attention à aller vers des services qui soient inclusifs, hein, pour pas retourner vers une forme de thérapie de conversion. Donc ça, c'est tout ce qui est plutôt orienté vers l'acceptation de toi et le fait de se remettre d'une thérapie de conversion. Autre chose qui peut être bénéfique, c'est éventuellement d'entamer des procédures judiciaires vis-à-vis des personnes qui vous ont fait subir ces thérapies de conversion. Donc si c'est un professionnel de la santé, ça peut être dénoncer cette personne-là, porter plainte auprès de l'ordre professionnel. Si on estime que à cause de cette thérapie de conversion, il y a eu des dommages sur notre vie, par exemple une dépression qui aurait duré plusieurs années, qui nous aurait fait perdre notre emploi, etc., on peut demander réparation à travers un recours au civil. Puis si on souhaite que la personne qui a fait ça soit punie, entre guillemets, là, il y a les recours plus récemment au pénal. Donc là, on peut porter plainte à la police et ouvrir une démarche au criminel, en droit pénal. Pénal, civil et tout ce qui est dénoncé à un ordre professionnel. Puis sur le plan plus personnel, ça va être de se rapprocher de milieux, de personnes, d'organisations, voire de professionnels de la santé qui vont vous aider à mieux vous accepter et mieux vivre le fait que vous êtes dans les minorités sexuelles et de genre.
Et est-ce que ce sont vers ces mêmes personnes vers qui, justement, ceux qui sont en train de se questionner sur leur orientation sexuelle et leur identité de genre, elles peuvent se tourner, en tout cas quand elles n'ont pas l'appui de leur famille?
Oui, ben en fait, c'est ça, c'est important, notamment lorsqu'on est dans un milieu qui n'accepte pas la diversité sexuelle et de genre de leurs proches. C'est important pour ces personnes-là de pouvoir aller chercher du soutien vers des milieux qui sont plus accueillants. Donc, soit on peut aller, comme je disais, vers des associations LGBTQ+, ou vers des gens qui se sont positionnés favorablement par rapport à l'inclusion de la diversité sexuelle de genre. Je pense à certains professionnels de santé, mais ça peut aussi aller vers une personne de confiance de son entourage. Et puis, pourquoi pas, si on a envie d'aller vers des recours judiciaires, il y a tout ce qui est chambre de justice de proximité qui peut aider les personnes à naviguer là, à travers les démarches judiciaires. Mais parfois, quand le milieu familial, je pense par exemple à des jeunes qui sont dans des milieux toxiques hein, par rapport à la diversité sexuelle et de genre, parfois une des bonnes choses que ces personnes-là peuvent faire, ça va être dès qu'elles en ont l'opportunité, de s'éloigner de ces milieux-là. C'est ce que font beaucoup de personnes LGBTQ+, hein, souvent quitter son milieu d'origine. Parfois, il y a des migrations même qui sont envisagées. Pour pouvoir prendre un petit peu de distance avec le milieu qui vous opprime, et puis aussi, accessoirement, faire un travail d'acceptation sur soi-même, et puis vivre sa vie.
En tout cas, la première chose à faire, c'est de se mettre en sécurité et de chercher un accompagnement qui soit sans jugement et sans pression.
Exactement, exactement.
Est-ce que peut-être il y a un point sur lequel vous souhaitez donner plus de précision?
Je pourrais peut-être préciser. Bon, là, on a parlé des thérapies de conversion, les différents recours, etc. Ouais. Ce qui est compliqué dans le sujet des thérapies de conversion, c'est que c'est parfois difficile à reconnaître, c'est difficile à identifier. Parfois, même les personnes qui en ont subi, elles sont pas vraiment conscientes, elles n'ont pas vraiment conscience qu'elles ont subi une thérapie de conversion. Et puis, les thérapies de conversion, ça naît parfois des biais inconscients qu'on peut avoir de la diversité sexuelle et de genre. Donc même sans être entièrement homophobe, transphobe, parfois on a forcément intériorisé une image plutôt négative. Et ça peut nous rendre aveugles à certaines formes de thérapie de conversion. Donc nous, ce qu'on propose à la Fondation Émergence, hein, c'est la même formation qu'on a offerte hier. On a sur le programme En finir avec les thérapies de conversion, qui notamment propose des formations pour permettre aux personnes de démystifier c'est quoi une thérapie de conversion, ça ressemble à quoi, d'où ça vient, c'est quoi les biais qui l'alimentent, pour pouvoir éventuellement accompagner au mieux les personnes qui auraient été victimes de ce genre de dérive.
Et pour les personnes qui veulent se rendre à ces formations, comment elles peuvent vous contacter?
Alors, on peut nous contacter par notre site internet, tout simplement, c'est fondationemergence.org.
D'accord, merci beaucoup. Comme ça, si des personnes sont directement intéressées, elles pourront faire les démarches au plus vite.
Absolument.
Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairé sur ce sujet. On espère que cette interview elle pourra aider à mettre en lumière cette problématique et elle pourra donner les ressources nécessaires à toutes les personnes qui en ont besoin.
Exactement, d'où la nécessité d'en parler. Je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
Avec grand plaisir et merci à vous d'être venu.
Et les élèves, vous écoutez votre radio Saint-Pierre ? Aujourd'hui, rien de plus facile. Juste avec un simple clic, téléchargez votre application sur App Store et Google Play. Bienvenue !